BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. De quoi je me mêle, votre rendez-vous du week-end sur 01 TV bien sûr, sur les box, sur 01net.com et sur la chaîne YouTube de 01 TV. Merci d'être là. Et puis un salut aussi à tous ceux qui nous retrouvent sur BFM Business à la radio, à la télé le dimanche matin. Avec au menu de ce De quoi je me mêle, eh bien tout à l'heure, on s'intéressera au marché de la télévision avec le géant Samsung. Alexis Rollin, qui est le monsieur télé de Samsung France, sera mon invité. On reviendra sur ce qui s'est passé durant cette pandémie dans le domaine du marché de la télé, de la pénurie de composants. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Est-ce que Samsung est impacté? Quelles sont les nouveautés aussi? Est-ce qu'une télé consomme beaucoup d'énergie? On verra que Samsung essaie d'être assez pushy dans ce domaine. Ça sera donc la deuxième partie de Quoi je me mêle. Et puis, je vous rappelle que toujours, vous pouvez réagir avec le hashtag DQJMM sur Twitter et nous rejoindre sur la page Facebook. Et merci d'être là. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Le club de la presse IT pour commencer. Et c'est avec Raphaël Grably cette semaine. Salut Raphaël, journaliste à BFM Tech. Et grâce à Raphaël et à son expertise, les amis, vous saurez tous sur l'actu de cette semaine. En tout cas, ce qu'il faut retenir dans l'actu. Et on va commencer par le chinois Xiaomi qui a fait une conférence de presse fleuve qui a duré 4 heures, en tout cas 2 fois 2 heures.
Oui, en deux parties.
En deux parties.
Comme le dernier Harry Potter, quoi. C'est tellement long que ça...
C'est ça.
Non, mais...
Je ne sais pas si c'était aussi intéressant, enfin en tout cas pour les fans peut-être.
Hein. Franchement, oui.
Enfin, oui, c'était
moi,
intéressant.
Pour tout dire, je n'ai jamais vu Harry Potter.
Mais je On l'a trouvé, il est là. Celui qui n'a jamais vu Harry Potter est là.
Je sais qu'il y a Pierre Thiolin qui va me tuer.
Voilà, qui est réalisateur.
Mais
non, non. Spoil en fait.
Voilà.
On vous dit que tout le monde meurt à la fin. Quoi.
Voilà, exactement. Ça, mais oui, non, Xiaomi, moi j'ai trouvé ça passionnant, franchement, vraiment très intéressant, énormément de choses. En fait, ils ont fait durer 4 heures, mais c'était pas pour rien, c'était pas du bullshit,
oui,
franchement.
C'était pas du remplissage.
Non, clairement pas, il y avait vraiment beaucoup de choses à raconter. Deux choses, alors évidemment, on peut parler rapidement de la voiture électrique, parce que ça c'est complètement nouveau chez Xiaomi.
Et c'est peut-être ce qu'il y a de plus waouh, on va dire.
Alors c'est ce qu'il y a de plus waouh, et c'est ce qu'il y a de plus waouh en termes financiers, parce que c'est 10 milliards de dollars sur 10 ans. Donc, alors, c'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, ça dépend à qui on compare, mais enfin, c'est quand même une somme énorme. Et ça montre l'appétit déjà du marché chinois pour l'électrique, parce qu'on parle de la pollution, mais la pollution, elle se fait beaucoup en Chine, et les Chinois sont les premiers à vouloir des voitures électriques.
Et le gouvernement est très, on va dire, très vindicatif contre ça. Vous savez que là-bas, on plaisante pas. Hein. Quand on décide, quand on met en place une loi, il faut la respecter.
C'est un gouvernement, c'est le Parti communiste,
bien sûr.
Qui est un côté libéral maintenant, enfin qui planifie les choses. Voilà. Il y a un vrai plan, et le plan, c'est de dire...
Il faut être discipliné aussi.
Exactement, mais derrière, l'État met les moyens, les ambitions, et donc Xiaomi va investir 10 milliards dans l'électrique. Alors, c'est assez flou, on ne sait pas complètement comment on va travailler avec Xiaomi, parce que Xiaomi travaille souvent avec des partenaires, notamment sur les différents produits de son écosystème, donc la question c'est avec qui exactement il va s'allier pour produire un véhicule électrique.
Et puis, fabriquer une voiture, Raphaël, c'est pas comme fabriquer un smartphone. Ça demande une expertise.
Sur les batteries, déjà.
Un savoir-faire aussi. Enfin, on le voit.
Mais
Tesla a mis des années avant d'arriver.
Oui, mais après, en fait, ce qui est sûr, c'est qu'en Chine, dans l'écosystème chinois, il y a matière. Ah, il y a évidemment tout ce qu'il faut en termes de technologie. La question, c'est au niveau des alliances. Et moi, la question que je me pose, c'est pour qui est-ce que c'est avant tout pour le marché chinois, ce qui est déjà une ambition énorme, ou est-ce que c'est carrément pour sortir du marché chinois?
Pour le monde entier.
Pour le monde entier. Mais ça, c'est intéressant parce que je trouve que ça montre, à mon avis, que derrière, le gouvernement met le paquet sur Xiaomi. Et on va du coup, je pense, embrayer aussi sur les smartphones, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de smartphones. Alors...
Juste un mot sur l'automobile, après on refermera. C'est vrai que le patron de Xiaomi est fan d'Apple, mais fan de Tesla. D'ailleurs, il ne s'en cache pas. Hein.
Oui.
Il a dit, nous, on veut faire aussi bien que Tesla, voire mieux, gros, en résumé.
Donc, alors, on l'a souvent comparé au Steve Jobs chinois.
C'est intéressant qu'il a... En fait, ils sont complètement décomplexés par rapport à la concurrence.
Mais ils ont quoi, franchement,
les Chinois, et Xiaomi,
ils ont quoi? Parce qu'évidemment, le marché chinois, en matière de technologie, technologie n'est plus du tout ce que c'était, ne serait-ce qu'il y a 5 à 10 ans.
Non, mais on verrait mal, par exemple, le patron de Samsung dire « Waouh, ce qu'a fait Sony, c'est génial, on va faire aussi bien ou mieux. »
Mais parce
c'est ça qui est dingue.
Parce qu'ils savent que derrière, en financement, ils sont, entre guillemets, nos limites. C'est-à-dire qu'ils ont des appuis de l'État en dizaines, voire centaines de milliards, l'équivalent de milliards de dollars. Et donc, ils savent que si le gouvernement veut y aller, ils mettront les moyens pour y aller et ils réussiront. Ça, c'est une évidence.
En plus, ils sont sortis de cette fameuse liste noire américaine, donc j'imagine que c'est quand même une sacrée bouffée d'oxygène.
Alors,
hein,
c'est là où je voulais en venir aussi, mais on peut parler de la voiture, des smartphones, mais de façon générale, moi, c'est sûr que Xiaomi. Je trouve que c'est intéressant parce que, évidemment, jusque-là, c'était plutôt Huawei qui était mis en avant par le gouvernement, sauf que Huawei, qui est acteur dans les antennes 5G, s'est fait mettre sur une liste noire, ce qui a impacté très lourdement ses autres activités, notamment celle du mobile, puisqu'ils n'ont plus de Google. Et la question que je me pose, mais là c'est vraiment une hypothèse, mais c'est est-ce que le gouvernement chinois n'essaierait pas de dire notre nouveau chevalier, notre poulain pour conquérir le monde finalement, est-ce qu'on ne va pas plutôt miser sur Xiaomi qui entre guillemets est dans une position plus favorable, qui n'a pas ce problème d'infrastructure, de présence dans les infrastructures 5G et qui va finalement produire des produits B2C. Beaucoup de produits B2C, parce que ces 4 heures, c'était quand même quasiment que du B2C, et donc qui va pouvoir peut-être un peu conquérir le monde. Et donc, on a l'impression qu'ils ont changé un peu de fusil d'épaule, ce qui est assez pragmatique, et ce qu'on voit d'ailleurs, alors il y a les conséquences négatives sur Huawei, puisque les ventes de smartphones ont reculé, mais Xiaomi qui est quand même passé 3e vendeur de smartphones au monde, au 4e trimestre.
Et qui est en train de remplacer tranquillement Huawei au niveau mondial.
En train complètement de remplacer Huawei avec Oppo. Oui.
Mais enfin, autre chinois.
Autre chinois, évidemment, mais enfin, si on regarde les chiffres, on va dire corrélation n'est pas causalité, mais Huawei, je crois que c'était moins 30% de ventes de smartphones sur le dernier trimestre 2020, et Xiaomi c'est plus 20 et Oppo plus 10, donc on s'y retrouve un peu. Alors évidemment, il y a des vases communicants, et à mon avis, ça va aussi peut-être un peu chez Samsung, peut-être dans une moindre mesure chez Apple, mais clairement, on voit. Voilà, cette évolution vers Xiaomi et Xiaomi qui prend, entre guillemets, j'ai envie de dire, ses responsabilités parce que il faut dire quand même ce qui est jusqu'à maintenant que Xiaomi en Occident, c'est quand même du smartphone pas cher sur lequel Xiaomi ne gagne pas d'argent. Ils ont zéro marge sur ces. Donc on parle des Redmi qui cartonnent.
Avec d'excellents rapports qualité-prix.
Le meilleur, franchement, le meilleur. Mais qui est aujourd'hui vendu chez les opérateurs, qui est bien implanté, mais qui a quand même cette image de smartphone de bon rapport qualité-prix, mais pas de leader en termes de technologie, ce qu'avait réussi à faire Huawei en très peu de temps, en 4-5 ans. Je veux dire, Huawei, il y a 5 ans, c'était du smartphone en marque blanche pour Bouygues Télécom. Et là, Huawei, personne ne dit que ce n'est pas un leader technologique. Et donc, je pense que Xiaomi va prendre le même chemin. Et on le voit avec, par exemple, moi, ce qui m'a marqué, mais pas que moi, c'est le Mi 11 Ultra.
Qui est le super ultra haut de gamme.
C'est-à-dire que depuis 2 ans, il s'était vraiment mis à hauteur. Alors, il y avait les Mi 7, Mi 8, etc., qui étaient le flagship killer. Mais là, il passe dans le supra haut de gamme.
Avec des ambitions pour concurrencer les meilleurs smartphones au monde.
Ah oui, complètement. En termes de spec, notamment, c'est concurrencer Samsung. C'est difficile de dire Apple parce que Apple ne joue pas sur ce terrain du toujours plus en termes de spec et d'offres technologiques.
Il n'y a pas de surenchère technologique.
Il n'y a pas de surenchère technologique chez Apple. C'est on prend ce qui marche parfaitement et on l'intègre et puis ça va à tout le monde.
Oui,
et
ça fait une homogénéité.
Ça fait une
un
homogénéité.
Bon produit.
Mais du coup, moi, ça me fait plutôt penser à Samsung. Clairement, je pense qu'ils s'attaquent principalement à Samsung. Notamment, on voit au niveau de la photo.
Avec un capteur Samsung à l'intérieur,
avec
d'ailleurs.
Un capteur photo Samsung,
c'est
qui est le principal. Exactement. Il y a deux Sony et un Samsung, mais c'est pas anodin non plus. Avec du... Alors, je sais pas si c'est pour celui-là, mais parce qu'ils ont annoncé aussi le Mi Mix pliant avec du Harman Kardon dedans. C'est pas anodin non plus, qui appartient à Samsung.
Qui appartient à Samsung
et
aussi.
Et qui ressemble quand même comme deux gouttes d'eau au Galaxy Fold. C'est quasiment le même.
Et ce Ultra est étonnant parce qu'il a un petit écran à l'arrière.
Alors oui, il a un petit... Alors ça, c'est le côté un peu gadget. Mais moi, ce que j'aime bien avec les fabricants chinois, c'est comme ils ont une gamme qui est en général assez étendu, ils n'ont pas peur de tester des petits gadgets, et c'est vrai que cet écran à l'arrière, alors qu'il ne sert pas à grand-chose, enfin, afficher l'heure, on peut faire un selfie, forcément.
On fait un selfie avec le meilleur capteur.
Avec le meilleur capteur, c'est l'intérêt. Il ne faut pas prendre le grand angle, parce que sinon, on va avoir une tête un peu déformée. Donc, du coup, il faut le tenir aussi très loin, donc ce n'est pas forcément pratique.
Il faut avoir le bras long.
Il faut avoir le bras très long, mais non, mais c'est intéressant. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout les specs techniques. Et en fait, la vraie question, et là, je pense notamment à notre ami Adrien Branco, qui va sûrement y répondre sur 01net, c'est la qualité photo, et là clairement il mise sur faire aussi bien qu'Huawei, pour remplacer Huawei en étant le principal adversaire de Samsung. Or, Samsung, sur le très haut de gamme, c'est le seul Huawei mis à part dans le sur le marché Android à vendre du smartphone à 1 200 €. Là, ça va être du smartphone à 1 200 €.
Ouais, c'est clair.
On n'a pas encore la date de sortie en France, mais clairement, pour moi, c'est une attaque directe vis-à-vis de Samsung, et c'est bien, je trouve, parce qu'on est tous très tristes qu'en tant que technophiles, hein, en dehors des considérations politiques, que Huawei ne puisse plus s'exprimer en France, parce que, évidemment, les smartphones Huawei sont absolument magnifiques.
Mais inutilisables.
Mais inutilisables. Et moi, je suis très content qu'on ait de nouveau de l'innovation en concurrence. Et que
ça va stimuler, en fait, le marché du smartphone, ça, c'est clair.
Le marché du smartphone, et notamment Samsung, qui en avait un peu besoin aussi, peut-être ces derniers temps.
On enchaîne avec un autre sujet. Vous savez que Clubhouse, on en parle de temps en temps dans De quoi je mêle, commence vraiment à cartonner. Alors, auprès d'une communauté, on va dire, d'utilisateurs d'iPhone, il faut être parrainé, etc. Mais on voit que la plupart des décideurs aujourd'hui y sont, et c'est important hein, de séduire les décideurs. Et ce système de, on va dire, excusez-moi, je perds ma voix, ça arrive de temps en temps. Ce système de réseau social vocal inspire tous les autres concurrents. C'est ça qui est intéressant, Raphaël.
Oui, alors c'est vrai qu'on a l'impression que tout le monde lance son Clubhouse. C'est un peu comme tout le monde fait ses stories. Il y a les stories qui sont arrivées partout. Alors évidemment Instagram, ça c'est plutôt logique, mais sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn. Et donc là, on a l'impression qu'il se repasse exactement la même chose avec Clubhouse. Après, c'est quand même le signe que c'est une application qui n'est pas très difficile à répliquer.
Non.
Parce que finalement, les stories, ça a mis un peu de temps pour arriver quand même. Hein. Ça demande beaucoup de boulot parce qu'il y a une interface à mettre en place.
Bien sûr, les filtres, enfin,
il y a beaucoup de boulot pour les stories. Clubhouse, c'est quand même arrivé des Clubhouse copycat qui sont arrivés partout. Et moi, je trouve ça inquiétant pour Clubhouse parce qu'en fait, ça montre que techniquement, alors l'idée est excellente, c'est vrai. Cette histoire de pouvoir discuter à l'oral, en conversation multiple, mais sans que ce soit un Zoom, c'est-à-dire vraiment ouvert, et l'outil est vraiment bien fait, c'est vrai.
Oui, avec, en plus, c'est différent. Enfin, il y a une scène virtuelle où tout le monde peut parler, et les administrateurs peuvent mettre des invités sur la scène, les autres écoutent, etc. Enfin, c'est plutôt bien fait. Hein.
C'est très bien fait, mais c'est très facilement réplicable.
Ouais. Et puis en plus, c'est pas sur Android aujourd'hui.
C'est pas sur Android, et à mon avis, c'est là. Alors oui, il y a même Spotify qui veut faire une sorte de Clubhouse aussi, mais aussi sur le sport. On peut décliner
sur
ça
la
à l'infini.
Aussi.
Parce que le problème de Clubhouse, c'est qu'on arrive et que si on n'a pas un rendez-vous en tête, si on ne se dit pas je me connecte à 18h parce qu'il y a ça, si on arrive comme ça au milieu de la journée, en général, on ne trouve pas grand-chose.
Et puis en plus, ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'on revient en fait au linéaire avec Clubhouse.
On revient au linéaire, c'est
alors
vrai.
Alors qu'on est tous habitués maintenant au délinéarisé, où en fait on est les patrons, on écoute et on regarde ce qu'on veut, où on veut, et bien Clubhouse, non, c'est l'inverse. C'est comme la bonne vieille télé de papa, quoi.
Exactement.
C'est-à-dire que si on arrive au milieu d'une discussion, on ne peut pas rembobiner, et si on arrive à la fin, on ne peut pas la réécouter parce qu'il n'y a pas de podcast.
Alors justement,
il n'y a pas de replay.
Alors il y a deux points qui sont essentiels pour le développement, c'est déjà Android, ça arrive sur Android, et ce replay, parce que finalement, parfois, on a des discussions qui sont passionnantes, on se dit, mais ça ferait un super podcast, regardez. Et ça, c'est deux fonctions qui vont arriver, notamment chez le concurrent Twitter, avec Spaces, hein, qui développe Spaces, c'est le Clubhouse de Twitter, qui est déjà en bêta, moi que j'ai pu tester, qui est déjà actif chez certains sur l'appli iPhone, qui va arriver très rapidement, je crois que la bêta Android est déjà lancée, alors Clubhouse, il parle de plusieurs mois, et puis, ils ont déjà dit qu'il y aura une fonction aussi, pour tout simplement exporter le fichier audio, et l'envoyer en podcast. Et c'est pour ça que moi, je suis très content de cette appli Clubhouse, parce que je trouve que c'est très bien fait. Mais je pense, et je fais un petit pari, peut-être que je perdrai, et je souhaite pour Clubhouse, mais je pense que ça n'existera plus dans 3 mois.
On va voir, on verra bien.
Mais que l'usage ne disparaîtra
pas.
Oui,
c'est qu'à mon avis, vont s'accaparer.
Et à mon avis, il y a Twitter et LinkedIn qui ont un coup à jouer. LinkedIn, parce que comme tu le disais, c'est un truc quand même un peu de dirigeant,
de
chef de business, et ça correspond très bien à LinkedIn, beaucoup mieux que les stories, je pense. Mais aussi sur Twitter, et il y a un truc qui me plaît beaucoup, moi, pour Twitter, c'est que Twitter, on dit souvent que c'est le réseau social un peu de la haine, parce qu'on est tous énervés sur Twitter, de l'indignation permanente.
C'est le cas. Hein.
Et j'ai trouvé quand même des débats sur Clubhouse, où il y avait des gens qui s'opposaient frontalement sur Twitter, mais tout de suite, mais c'est la réalité, c'est comme dans la vraie vie.
Dès qu'on se calme. On fait moins le malin.
Et on peut avoir envie d'insulter quelqu'un sur Twitter, et quand on l'a en face de soi, on va devenir un peu pote, et puis on va dire, ah ouais, non, mais t'es un peu... Et oui, parce que
qu'on appelle l'hypocrisie, ça.
Oui, voilà. Non, la nuance. Quand on parle, on dit beaucoup plus de choses qu'en 280 caractères. Et finalement, je trouve que ça peut être un bon moyen d'apaiser les choses. Et donc, j'espère que ça marchera bien sur Twitter. Malheureusement, pour Clubhouse, j'y crois moyennement. Peut-être que je me trompe totalement, mais à mon avis, ça va partir sur LinkedIn et Twitter.
Tiens, notez-le sur vos tablettes si vous êtes un fan d'Apple. Ça sera le 7 juin prochain. La WWDC a été annoncée cette semaine, Raphaël. Rappelons que c'est vraiment le grand rendez-vous, la conférence des développeurs Apple.
La grande conf développeurs, tous les ans, mois de juin. Alors pendant... Il y a eu des présentations de produits pendant la WWDC, mais ce n'est plus le cas quand même depuis les dernières années. Alors, une nouvelle fois, la deuxième consécutive, virtuelle, hein, évidemment, à cause de pandémie. C'est vrai que cette année, on n'a pas beaucoup de fuites sur iOS 15. Évidemment, il y aura iOS 15, du coup, qui sera présenté.
Oui, mais... c'est toujours l'objectif de cette WWDC, hein, c'est de présenter, en fait, les pistes de travail d'Apple aux développeurs.
Exactement.
En fait, pour qu'ils puissent préparer les applis qui sortiront.
Il y a la première étape, c'est-à-dire
le nouveau iPhone.
Exactement. La conf d'ouverture qui s'adresse en fait quasiment maintenant au grand public aussi, puisqu'on découvre la nouvelle version d'iOS. Et puis après, ça dure quelques jours. Et puis il y a des dizaines et des dizaines d'ateliers pour que les développeurs puissent rencontrer les gens d'Apple et dire voilà comment vous allez utiliser cette API, comment vous allez intégrer cette fonction, échanger. Donc pour les développeurs, c'est absolument passionnant en général. Donc tout sera en ligne. Parmi les rumeurs, quand même, il y a cette histoire de réalité augmentée, réalité virtuelle.
Oui, parce que sur le visuel, en fait, tous les petits personnages
ont des lunettes, les animojis.
Ils ont des lunettes.
Voilà, donc, et il y a ces rumeurs quand même. Alors, moi, je suis toujours étonné de ces rumeurs de lunettes de réalité augmentée parce que.
Moi, je n'y crois pas du tout.
Mais non, parce que moi, je ne vois pas l'usage. Mais après, Apple arrive à inventer des usages. C'est une des rares boîtes qui arrive à le faire, c'est inventer vraiment des usages. Mais quand même, moi je suis comme toi, j'y crois moyennement, j'ai du mal. En fait, j'ai du mal à voir comment ça va s'intégrer dans l'écosystème Apple. Voilà. Donc, ou alors peut-être une version vraiment développeur pour du B2B, mais encore une fois, on est assez loin de l'univers d'Apple. Donc après, peut-être que simplement, ils sont marrés, ils ont dit, il y a des rumeurs sur les lunettes, on va leur mettre des lunettes et puis ça va faire parler des journalistes.
En plus, ils n'ont pas de branche. Si vous êtes avec vidéo, vous voyez, il n'y a pas de branche sur les lunettes.
C'est les lunettes 2.0. Et puis en plus, comme ils ont des tout petits nez, je ne sais pas du tout comment ça tient.
Oui, comment ça tient,
c'est accroché. Au niveau
ils ont
du
scotch.
Voilà. Mais donc, a priori, les pistes quand même pour iOS 15, c'est peut-être davantage de personnalisation au niveau des widgets. Hein, les widgets qui ont quand même sont arrivés l'année dernière et qui ont cartonné. C'est vrai que les utilisateurs d'Android se sont un peu moqués parce qu'ils disent nous, les widgets, on connaît ça depuis longtemps. Et puis, c'est vrai que pouvoir un peu personnaliser, c'est quand même pratique. La question, moi, que je me pose, c'est sur la vie privée. Est-ce qu'ils vont aller encore plus loin? Parce que finalement, pour moi, la fonction la plus importante, ce n'est pas iOS 15. Enfin, a priori, il y aura peut-être des nouveautés, mais c'est iOS 14.5 avec la fameuse notification pour ne pas être pisté au travers des applications.
Et qui verrouille pas mal d'applis.
Et qui verrouille notamment Facebook. La question, c'est comment va encore avancer Apple dans la vie privée? Parce que moi, je pense qu'ils vont évidemment continuer là-dessus. C'est leur principal.
C'est leur ADN.
C'est à la fois leur ADN et leur argument marketing, mais qui se trouve être, comme tu dis, dans leur ADN, puisqu'ils n'utilisent pas les données personnelles, donc ils ont tout intérêt à le faire. Mais donc la question, c'est comment est-ce qu'ils vont arriver encore à avancer sur la vie privée et aussi sur la rétrocompatibilité d'iOS. Ça, c'est intéressant, ils ont fait beaucoup d'efforts là-dessus.
Oui, qui permet d'avoir des téléphones et des iPhones qui durent des années et des années.
Oui, on
sont
est
toujours
sur
5-6
ans. C'est-à-dire que là, l'iPhone 6S est compatible avec iOS 14.
Sans doute pas iOS 15.
On arrivera à l'iPhone 7. Et personne ne fait mieux, sur le marché du smartphone. Puisque sur Android, en général, c'est 2-3 ans. On a l'exception Fairphone, mais qui propose... une mise à jour d'Android là qui vient de la proposer sur le Fairphone 2 qui est sorti il y a 5 ans, mais c'est avec Android 9, donc Android qui a 2 ans, donc c'est quand même moins bien.
Un Fairphone pendant 5 ans.
Donc c'est vrai que sur la durabilité
Faut se fouetter quand même.
Voilà, je n'osais pas le dire, mais sur la lutte contre l'obsolescence logicielle, Apple ne fait pas mieux, et donc c'est vrai que les axes d'Apple, c'est obsolescence logicielle, enfin lutte contre l'obsolescence logicielle, et vie privée, et sûrement environnement, mais ça c'est plus pour les présentations produits.
Ouais. Et puis sans doute aussi quelques petits indices concernant les nouveaux iPhones, même si on peut imaginer que le nouvel iPhone qui sortira en septembre prochain s'adaptera peut-être à la pandémie. On parle de plus en plus de ce capteur ce capteur biométrique, en tout cas d'empreinte digitale dans l'écran. Alors
oui,
ça existe déjà sur Android, ça pourrait arriver sur le nouvel iPhone.
C'est vrai, le retour de Touch ID
avec une
en
double
fait.
Identification.
Exactement.
Toujours Face ID.
Oui.
et l'empreinte digitale.
Exactement, parce que justement, on parlait d'iOS 14.5, déjà, ils vont permettre de déverrouiller, si on a une Apple Watch, si l'iPhone détecte l'Apple Watch à proximité, il déverrouille. Donc ça, c'est déjà pas mal, donc on n'a plus besoin du masque. Mais sinon, il faut en rester au code, à 4 ou 6 chiffres. Et donc, le retour de Touch ID, c'est une des rumeurs sur les prochains iPhones. Comme je disais tout à l'heure, en général, Apple attend que les technologies soient matures pour les intégrer. Ils font pas la course à la technologie. Enfin là, le capteur d'empreinte sous l'écran, ça fait maintenant 3 ans que c'est quand même largement utilisé. Ça fonctionne bien, donc c'est vrai que ça pourrait être retenu, notamment pour la pandémie. Mais bon, après, ça sort en septembre, c'est commercialisé fin septembre. J'espère quand même que fin septembre, on aura peut-être le retour de Face ID sans masque, on peut l'espérer, mais c'est vrai que c'est clairement une des pistes. Et de toute façon, garder un smartphone avec Touch ID pour Apple, c'est important.
Bien sûr.
Pour le moment, ils le gardent avec l'iPhone SE parce que le form factor de l'iPhone 7, de l'iPhone 8, pour des personnes, je pense notamment aux personnes âgées, c'est un marché monumental. Et donc, je ne pense pas du tout qu'Apple dise adieu, en tout cas, à ce capteur d'empreinte digitale.
On suivra ça de près, bien évidemment, tiens, puisqu'on est dans l'actu Apple. Apple qui, lors d'une prochaine mise à jour aussi, ne nous imposera plus la voix de Siri.
Oui,
On pourra choisir dès le départ, en fait, dès la configuration de son iPhone, si on veut un Siri femme ou un Siri homme.
Oui, ben là encore, on parle beaucoup d'iOS 14.5 parce que c'est la grosse mise à jour où il y aura tout ça. Et il y aura, notamment, ça a été vu là il y a quelques heures par des utilisateurs qui sont donc en version bêta. La mise à jour, elle sera déployée pour le grand public dans les prochaines semaines. On n'a pas encore de date, mais sûrement peut-être fin avril ou en mai. Et oui, il n'y aura plus de voix par défaut de Siri femme. Alors, en France, c'est pas le cas. En France, on a un homme par défaut. On a une voix d'homme par défaut, mais aux États-Unis, c'est une voix de femme. Et forcément, il y a une question qui se pose régulièrement, c'est est-ce que les assistants vocaux sont sexistes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on a cette image, entre guillemets, un peu sexiste, de l'assistant qui serait une assistante ? On le voit, par exemple, avec Amazon, qui a peut-être fait une erreur, dès le début, en nommant son assistant Alexa, avec un prénom qui est quand même plutôt féminin, alors que pour Google Assistant, il n'y a pas le problème. Et puis, Siri, c'est pas tellement genré comme nom. Mais donc, Apple a décidé de changer ça.
On choisira, en fait,
la configuration
du téléphone.
Tout simplement, il n'y aura plus de voix par défaut.
D'accord.
Ce sera tout simplement soit un homme, soit une femme. On le configurera. Mais ça arrivera probablement aussi en France. C'est simplement que ce ne sera plus un homme par défaut.
Oui.
Mais c'est quand même un mouvement qui est revendiqué par Apple. Hein. Ils ont dit c'est pour de la diversité. Donc c'est assumé, c'est de dire on ne veut plus lier ça à une voix féminine.
Et puis ça permettra à tous ceux qui ne savaient pas qu'il y avait une voix masculine et féminine à Siri de pouvoir choisir tout simplement aussi.
Et ça permettra de changer. Et puis d'ailleurs, il y a aussi, alors c'est pas encore pour la France, mais aux États-Unis, il y a aussi en Italie, il me semble, la nouvelle version des voix de Siri qui sont beaucoup plus naturelles avec les réseaux neuronaux, etc.
Et qui permettent d'avoir une fluidité.
Une fluidité. Et franchement, pour avoir écouté quand on écoute les deux, on peut le voir, il y a plein de vidéos.
C'est impressionnant la différence.
C'est beaucoup plus naturel et je suis pressé que ça arrive en France.
Exactement. Tiens, on reste du côté des géants de l'internet américain, Facebook, Twitter, Google, qui vont se faire, à mon avis, un peu taper sur les doigts au Congrès US.
Oui, c'est-à-dire qu'ils sont un peu sous pression. Hein. Ils ont été tous auditionnés. Alors quand je dis tous, c'est Google, c'est évidemment Facebook. Donc il y avait Mark Zuckerberg, Jack Dorsey.
Tous Twitter aussi,
Twitter,
bien sûr.
Qui était dans sa cuisine apparemment. Il avait un fond, je sais pas trop où il était. qui sont fait auditionner donc par le Congrès. Alors là, on voit des images un peu old school parce que c'était en présentiel, comme on dit, évidemment, c'était en virtuel. Sur le problème de la modération en ligne, j'ai l'impression de vivre un peu un jour sans fin. On a l'impression que le problème se pose et se repose. Mais là, clairement, le contexte fait qu'il y a eu le Capitole le 6 janvier, il y a eu le bannissement de Donald Trump. La question, deux questions principales, mais qui vont revenir d'ailleurs aussi en Europe, puisqu'il y a le Digital Services Act qui va arriver, c'est les moyens de modération qui vont être mis à disposition par les réseaux sociaux et la transparence sur ces moyens de modération.
Ce qu'on reproche très rapidement à tous ces réseaux sociaux, c'est de laisser comme ça des flots de désinformation, le complotisme, la haine, etc. Et c'est pour ça que le Congrès US est en train de leur dire, attendez les gars, trouvez
vous
une
n'êtes
solution.
Pas responsable. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut qu'ils disent, on ne sait pas le faire.
Voilà.
Mais le problème, c'est qu'ils disent, nous, on a des super algorithmes, ça détecte 98% des publications.
Le problème, c'est que ça ne marche pas. En tout cas, ça ne marche pas assez bien.
Le problème, c'est que 2% sur Facebook, ça reste des millions. et que c'est ces 2% qui vont être partagés. Et donc, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas. Et on l'a vu pendant l'élection présidentielle, on le voit depuis le début de la pandémie.
Et puis,
ça
toujours aussi, ce curseur, c'est que si on va trop loin, C'est de la censure.
Exactement.
C'est ça.
Mais
à quel moment on peut se dire, bah tiens, cette information, elle est complotiste, à quel moment c'est haineux, ça peut être du second degré, ça peut être de l'humour, ça peut être aussi sorti d'un contexte où c'était un message anodin, enfin voilà, il y a
tout ça. Le fond du problème, et donc l'autre sujet, c'est évidemment la responsabilité en tant qu'hébergeur, est-ce qu'ils vont devenir plus responsables que de simples hébergeurs ? Le problème se pose avec la fameuse section 230 aux États-Unis, mais ça se pose aussi en Europe. Mais oui, clairement la modération, mais en fait la question de fond, c'est combien vous voulez investir en milliards ? Parce que là, ça va se compter en milliards. Parce que eux, évidemment, ils disent, nous, on y arrive avec des algorithmes. Ils n'y arrivent pas avec des algorithmes.
Il faut des humains,
sauf que le problème, c'est que l'humain, ça coûte beaucoup plus cher
que les algorithmes.
Et évidemment,
ça mange, ça boit, ça dort.
Exactement. Et puis surtout, il y a une autre aussi question, c'est que le jour où ils réussiront parfaitement dans un monde parfait leur modération, est-ce que quelque part ça va pas faire fuir des gens qui sont aussi là pour alimenter tout ça, et est-ce qu'ils vont pas perdre de l'argent en investissant de la modération et dans des modérateurs humains, mais tout simplement aussi en ayant moins d'engagement, parce que malheureusement on voit que les fake news permettent un engagement beaucoup plus fort, donc beaucoup plus de vues, beaucoup plus de pubs.
Voilà.
Donc en fait, ils vont perdre sur les deux tableaux.
Ça va leur coûter plus cher, ils vont perdre de l'argent.
Et ils vont perdre de l'argent. Donc ils vont perdre sur les deux tableaux.
Oui, mais d'un côté, ils n'ont pas le choix, parce qu'autrement, ils risquent de se faire démanteler.
Tant qu'il n'y a pas de régulation, ils ont le choix. Voilà. Et toute la question, c'est est-ce qu'un jour, il faut qu'ils n'aient plus le choix ? Et on n'est quand même pas loin. On n'est pas loin, effectivement, de la régulation beaucoup plus forte aux États-Unis. Mais comme je disais, ça va arriver aussi en Europe très rapidement.
Le cas emblématique, c'est le cas Trump, bien sûr, qui est maintenant banni de tous ses réseaux. Impossible de le retrouver sur YouTube, etc. Enfin voilà, il est plus sur Twitter, Facebook, qui a décidé de créer son propre réseau social.
Oui, c'est ça qui, alors on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler. Non. Techniquement, je suis curieux de voir
très impatient de voir ça.
On va pas arriver à une espèce de blog, mais
en tout cas, il peut avoir la puissance, en tout cas, la puissance populaire pour créer un réseau social.
Oui, mais le problème, c'est qu'on parle des bulles de filtre, c'est-à-dire se faire enfermer sur un réseau social. Mais là, c'est-à-dire qu'on arrive dans un système encore pire, où chacun sera sur son réseau social.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que non seulement... Là les algorithmes font qu'ils nous proposent des choses qui nous plaisent sur les réseaux sociaux, mais là, on aura quasiment plus de communication. Et avoir un réseau social par courant de pensée, ça va commencer à devenir quand même assez dangereux, je pense.
Parce encore que là, plus dangereux. Encore oui, parce qu'il n'y aura plus de modération.
Disons qu'on aura l'impression que ce qu'on pense est absolument parfait, puisque tout le monde l'approuvera.
Et, voilà,
et
c'est
si
ça.
Quelqu'un ne pense pas comme nous, on dit cette personne est mauvaise, et ça va évidemment créer encore plus de tensions.
Ça sera le mot de la fin. Raphaël, merci beaucoup. Merci
avec
d'avoir
plaisir,
été avec
François.
Nous. Et encore, merci pour toutes tes analyses pertinentes. Journaliste à BFM Tech, Raphaël Grabi, bien sûr. Et vous restez avec nous. Dans un instant, on s'intéresse au marché de la télé avec un acteur majeur, un Samsung, et Alexis Rollin, le porte-parole de Samsung France, qui va nous faire un petit point sur toutes les nouveautés et puis sur les tendances en matière de télé. En ce printemps 2021, à tout de suite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV. BFM Business et 01 TV présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Et encore, merci d'être fidèle, d'être là chaque week-end pour De quoi je me mêle, vous le savez, sur 01 TV, la chaîne, bien sûr, sur les box, mais aussi sur 01net.com, sur la chaîne YouTube de 01 TV, et puis le dimanche matin, dorénavant, vous le savez, sur BFM Business Radio Télé. On va parler de télé, justement, la télé qui est redevenue le produit chouchou des Français, et puis, d'une manière générale, de tous ceux qui sont restés à la maison, plutôt de force, avec tous ces confinements successifs. Le marché de la télé qui est très dynamique, il a été énormément en 2020. L'est-il encore toujours ? Tiens, et quelles sont les nouveautés ? Quel impact aura la pénurie de composants sur le fait d'avoir peut-être d'acheter une nouvelle télé ? Est-ce qu'on va être en rupture de stock ? Quelles sont les innovations aussi dans ce domaine ? On va en parler avec l'un des acteurs majeurs du monde de la télé en France et dans le monde. Il s'agit de Samsung et j'ai le plaisir d'accueillir Alexis Rollin. Bonjour Alexis.
Bonjour François.
Directeur marketing TV et audio chez Samsung France. Merci Alexis d'être là.
Merci pour l'invitation.
On va faire le point évidemment sur un marché qui est assez étonnant. Il y a encore un an, vous n'étiez pas montré du doigt, mais avant le confinement, le marché de la télé était un peu poussif, on va dire. Et puis paf, on s'est tous retrouvés coincés à la maison. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte que, eh bien, quand on s'installait sur le canapé en famille, rien de mieux qu'une belle et grande télé. C'est un peu ça le constat, non ?
Oui, je te confirme. Effectivement, on s'est rendu compte quand même que pendant le confinement, malheureusement, on a passé plus de temps chez soi. Qui dit passer du temps chez soi dit utiliser notamment le téléviseur. Et on s'est rendu compte que beaucoup de choses ont été faites. En fait, on a passé ce temps à essayer des choses, des nouvelles choses, et se rendre compte des limites qu'on avait sur les téléviseurs actuels. Faut se rappeler qu'en 2010, on avait eu le premier passage à TNT qui avait fait un gros renouvellement de parc. Et depuis 2010, finalement, si on n'avait pas changé de téléviseur, on avait encore un 32 pouces ou un 40 pouces HD Ready sur lequel on n'a pas accès à Netflix, sur lequel on ne peut pas faire grand-chose.
Quelle est la taille moyenne aujourd'hui d'un téléviseur équipé en France ?
En France, on est passé au-dessus des 40 pouces. Là, on est plutôt à 42 pouces.
Ça, c'est quoi ? C'est la taille moyenne des téléviseurs qui sont dans les foyers ou la taille moyenne des téléviseurs qu'on achète ?
C'est des ventes, ouais, des téléviseurs
des
qu'on
ventes,
achète.
D'accord.
Exactement. Okay. Parce qu'il y a toujours quand même des gros volumes qui se font en petite taille pour mettre dans une chambre, une petite pièce. Néanmoins, quand on regarde la répartition du marché, plus de la moitié de la valeur du marché, c'est sur les 55 pouces et plus. Et la taille idéale aujourd'hui, la taille standard du marché, c'est le 55 pouces, qui fait 1m46 de diagonale.
Alors, des explosions de ventes en 2020, parfois un peu dans le chaos, hein, juste après le confinement, des stocks vraiment tendus, etc. Parce que, évidemment, il y avait moins de transport. Comment vous avez vécu cette période chez Samsung ? C'était compliqué ?
C'était pas forcément compliqué, c'est agréable finalement de gérer la pénurie, parce que c'est agréable d'être désiré.
c'est vrai,
donc,
c'est agréable d'être désiré.
Et ce qui est la force de Samsung, d'être leader mondial depuis 15 ans des téléviseurs, c'est aussi d'être une marque qui gère horizontalement et verticalement son business, puisqu'on est fabricant, on fabrique la plupart aussi de nos composants, donc on a pu assurer assez fortement les livraisons et la demande des téléviseurs, donc on n'a jamais vraiment eu de grosses pénuries. D'autres marques ont eu des pénuries, donc on s'est retrouvé avec des bonnes parts de marché sur cette période-là. Mm-hmm. Et aujourd'hui, on est capable de livrer fortement nos écrans.
2020, donc, explosion des ventes. Qu'est-ce que ça donne début 2021 ? Ça se calme un peu ou c'est toujours aussi dynamique ?
Alors, ça se calme un tout petit peu. On est sur un marché plutôt stable par rapport à l'année dernière, sur le début d'année, en volume. Par contre, en valeur, on est sur une grosse croissance du marché, puisqu'on se rend compte que les écrans qui sont achetés sont finalement plus des écrans un peu plus qualitatifs pour remplacer, comme on disait au début, les écrans un peu vieillissants, petits, etc. On achète un écran principal, on achète un écran qui nous fait plaisir, qui a une bonne qualité d'image, qui nous permet d'être connecté à Internet, d'utiliser tous les services connectés, et qui est plus grand pour plus d'immersion.
Le budget moyen d'une télé aujourd'hui, c'est combien
aujourd'hui,
les Français investissent combien dans une télé ?
Alors, le budget moyen, c'était jusqu'à... Pendant longtemps, ça a toujours été assez linéaire, c'est marrant, aux alentours de 460 euros.
Tiens.
Et on est passé à un peu plus de 500 euros là, sur ces derniers mois. Donc on a une vraie augmentation du budget investi pour le téléviseur. Mais pour ce même montant que vous investissez, et vous avez quand même un écran qui est bien mieux, beaucoup plus grand, mieux défini en 4K UHD, avec des meilleures technologies, QLED, OLED. Quelque chose pour se faire plaisir.
4K UHD, 8K aussi, hein, peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. C'est rigolo parce qu'on a vu des images là, de téléviseurs qui étaient arrosés par, par des jets d'eau, parce que c'est vrai que vous avez une gamme de produits qui est quand même assez étendue. Hein. Ça va du produit hyper design, The Frame qu'on accroche au mur, qui ressemble à un tableau, jusqu'à des télés qui sont faites pour être à côté dans les jardins, hein, qui sont quasi étanches. C'est dingue. Hein.
Tu as raison. L'objectif, en fait, l'usage a changé. On n'est plus à regarder le dimanche soir uniquement son film en famille devant son canapé. On fait beaucoup de choses avec ses téléviseurs. Nos appartements, nos maisons ont changé. On veut que les téléviseurs s'intègrent mieux. Surtout quand on a des très grandes tailles, des 55 pouces, des 65 pouces. C'est quand même un produit qui est assez massif. Donc il faut qu'il s'intègre en harmonie dans son intérieur. Nos habitudes ont changé. On veut regarder le téléviseur dans sa chambre, on veut regarder chez soi, on veut regarder vertical, horizontal, avec The Zero notamment. On peut même regarder dans le jardin, avec The Terrace, comme tu disais.
Et oui,
The Terrace,
c'est la classe,
qui porte bien son nom,
ouais,
et qui est un téléviseur qui est compatible aux normes IP55, donc qui peut rester en extérieur tout le temps. Et il n'aura pas de problème.
Il supporte en fait les aléas climatiques,
la poussière, l'humidité, la pluie,
etc. D'accord. Et c'est disponible en France, ça ?
C'est disponible en France, en 55, 65 et 75 pouces. Donc, on peut, aujourd'hui, quand on a la chance d'avoir un bel espace extérieur...
On peut s'offrir une télé qui peut rester à l'extérieur. C'est pas un peu américain, quand même, ça, comme vision des choses ?
C'est très américain, tu as raison, parce que ça a été lancé pour le marché américain. Mais quitte à avoir ces produits qui existent, on s'est dit, bah, faisons le test en France.
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Et écoute, il y a un public... on va pas couper ce public de cette possibilité. Donc,
c'est plus cher aussi.
C'est plus cher.
Beaucoup plus cher.
Non, c'est quand même plus cher parce qu'il y a vraiment toute cette,
cette partie
sécurité,
sécurité
et ça tient dans le temps. Mais c'est un produit très spécifique. Aujourd'hui, quand on investit des dizaines de milliers d'euros dans un spa, dans un salon de jardin, c'est pas plus cher que. Un joli salon de jardin.
Oui, c'est clair. Juste un mot sur l'actualité aussi, revenir sur la cacophonie économique mondiale, l'industrie qui est dans des situations compliquées. Lorsque j'interview de temps en temps vos homologues des autres marques, ils nous disent tous que ça devient compliqué en termes de par exemple pénurie de composants. On sait que dans une télé, il y a énormément de composants électroniques. Alors, pour certains, vous fabriquez vos composants chez Samsung, c'est ça votre force, mais pas tous. Hein. J'imagine qu'il y a des composants qui viennent d'autres fournisseurs. Est-ce que vous vous retrouvez en ce moment dans une situation, on va dire, plus tendue qu'auparavant pour fabriquer les télés et pour livrer en fait les consommateurs ?
Alors, l'avantage de fabriquer ces composants, effectivement, c'est de maîtriser une grande partie de sa chaîne de production. L'autre avantage d'être leader mondial depuis 15 ans, c'est d'avoir aussi une capacité d'achat. Qui n'est pas négligeable pour nos amis partenaires sous-traitants. Et aujourd'hui, on va toujours trouver une série, une taille, un modèle sur lequel on va avoir quelques petites.
Mais c'est plus tendu qu'en temps normal ou pas, malgré tout ?
Ça a été plus tendu parce qu'il y a eu un gros pic de demande en fin d'année dernière qui a absorbé une grande partie des disponibilités.
Oui.
Les usines de différents fabricants tournent à plein régime et aujourd'hui, pour moi, là où on a, en tout cas pour Samsung, on a résorbé cette pénurie et nos produits sont redevenus largement disponibles. Actuellement.
Donc c'est beaucoup, enfin votre industrie est beaucoup moins impactée que par exemple l'industrie automobile, où on sait que il y a des usines, en tout cas des chaînes de production qui sont à l'arrêt, parce qu'il n'y a plus de composants. Exactement. Vous n'en êtes pas là aujourd'hui.
Non, aujourd'hui les composants, ceux qu'on utilise sont moins en pénurie.
Oui, sont moins en pénurie, d'accord.
Et après,
c'est peut-être sans doute des composants spécifiques qui sont peut-être liés à certains appareils, et peut-être pas le monde de la télévision finalement.
Finalement, oui. Il y a tellement de composants différents utilisés et utilisables. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la disponibilité sur ceux dont on a besoin.
Mmh. Alexis, alors, les nouveautés du côté de chez Samsung, bon, bien sûr, il y a eu le CES à Las Vegas, qu'on a tous vécu en visio, avec pas mal de nouveautés qui ont été présentées. Il y a aussi une notion RSE d'économie d'énergie qui est, j'imagine, aussi au cœur de dispositifs et de la stratégie de Samsung, non ? Il faut que les télés consomment moins aujourd'hui. C'est un appareil qui consomme beaucoup d'électricité, une télévision.
Alors, effectivement, au CES, il y a plusieurs choses qui ont été annoncées. Il y a la qualité d'image, on pourra en reparler. Ouais, il y a l'utilisation, l'usage.
On va parler QLED, mini-LED et micro-LED.
Mais tu as raison, il y a un vrai engagement et un vrai virage de responsabilité de la part de Samsung qui utilisait. Oui, les téléviseurs sont des écrans qui consomment, mais qui ne consomment pas tant que ça dans un foyer par rapport à d'autres produits. Et surtout, le travail, c'est de faire réduire cette consommation d'énergie. Il y a plusieurs choses qui ont été mises en place, notamment au niveau européen. La nouvelle norme énergétique a été appliquée sur les téléviseurs depuis le 1er mars, qui en fait a durci les notations de consommation énergétique des produits. Avant, les produits étaient plutôt A, B, voire A+, etc. Là, ils sont plus F, G. Alors c'est un peu une interrogation pour les consommateurs en magasin.
Parce que finalement, il est rétrogradé.
Ils sont tous rétrogradés. Alors oui, effectivement, mais si on prend un peu de recul... Les téléviseurs de cette année, en tout cas chez Samsung, consomment moins que ceux de l'année dernière, donc un travail a été fait, même si on est en grade F ou G. Si on regarde la consommation linéaire pour 1000 heures, par exemple, on voit qu'on consomme moins. Et l'objectif de faire cette note-là, c'est qu'on laisse, dans les années à venir, aux fabricants la possibilité de toujours améliorer la note.
C'est ça.
Si on était déjà
à... On vous met à F ou G pour que vous puissiez atterrir à A dans quelques années.
C'est challenger, ouais, exactement.
Mais c'est possible d'atteindre ce A ?
Ah bah c'est un objectif, en tout cas.
D'accord, c'est votre objectif.
Notre objectif, c'est de diminuer notre empreinte via des actions sur la consommation d'énergie, mais via aussi des actions, par exemple, un peu plus terre à terre. Par exemple, nos télécommandes, aujourd'hui, sont solaires. Elles n'ont plus de piles. Donc elles sont dans toute la durée de vie du téléviseur, elles n'ont plus besoin de changer de pile, c'est quand même des millions de piles chaque année utilisées.
Attendez, solaire, ça veut dire que la télécommande, il faut que je la mette sur ma terrasse ou à côté de la fenêtre pour que ça marche?
Ça marche avec la lumière aussi artificielle, donc pas de souci, il faut juste la laisser, pas forcément la laisser dans son placard. Après, on peut aussi la recharger en USB puisqu'il y a un port mini-USB si besoin.
Mais en théorie, avec un usage, on va dire, traditionnel de la télé, si on pose la télécommande sur la table basse du salon ou sur le canapé, elle va se recharger, j'aurai jamais besoin de la recharger, on va dire, de manière traditionnelle.
Exactement. Pendant toute la durée de vie du téléviseur, donc entre 7, 10, 12 ans, enfin, en fonction du temps que vous allez garder votre téléviseur. On a fait aussi le choix assez drastique de ne plus utiliser d'encre d'impression sur nos cartons, puisqu'on met, imaginez, on vend en France 1 million de télé par an, 1 million de télé, les tailles grandissent, donc les cartons sont de plus en plus gros.
Oui.
On a utilisé des cartons recyclables, plus facilement recyclés, plus facilement recyclables. On n'utilise plus d'encre, c'est un choix un peu drastique côté marketing, puisque imaginez qu'en magasin tous nos télés seront les mêmes en fait, les cartons seront des cartons très basiques, alors que nos concurrents ont des cartons beaucoup plus attirants, mais c'est un engagement de notre part pour dire on va limiter cette empreinte, plus d'encre avec des minéraux, donc on est vraiment en train d'essayer de favoriser tout ça. Et le dernier engagement qu'on a fait, c'est depuis le 1er janvier on a acté la disponibilité de notre pièce détachée à 7 ans au lieu de 5 ans, ce qui est assez fort comme engagement de la part de Samsung aussi, puisque c'est du stockage et c'est des investissements.
Donc ça veut dire que, en fait, pendant 7 ans, je peux réparer ma télé.
Exactement.
Si elle ne fonctionne pas.
Vous êtes garanti d'avoir accès à des pièces détachées.
Alors on voit cet engagement donc très fort concernant l'économie d'énergie, mais de l'autre côté, vous sortez des télés qui s'appellent The Frame et qui sont allumées même quand on ne regarde pas la télé.
Alors, elles sont allumées. Oui.
Bah, elles sont allumées.
Elles sont allumées, c'est vrai.
Elles ne sont pas allumées. Elles sont allumées
elles
quand
sont
même.
Elles sont allumées, mais en mode économie d'énergie. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs de lumière et de présence qui vont faire que vous utilisez moins d'énergie, pas comme en utilisation de la télé normale, quand c'est en mode veille. Et ce capteur de présence aussi fait que quand vous n'êtes plus dans la pièce, cet écran va s'éteindre. Donc il ne reste pas allumé de manière permanente. Il reste un peu plus allumé qu'un téléviseur classique. Mais en même temps, on se rend compte aussi que beaucoup de gens laissent allumer les téléviseurs pour faire de la présence quand ils sont dans la pièce, même sans regarder l'écran. Mmh. Donc finalement, ça consomme moins que quand c'est allumé en ambiance sonore.
Mais c'est pas un peu paradoxal le fait de dire, ben voilà, on fait des efforts concernant l'énergie, etc., la consommation d'énergie, et on sort une télé, alors même si elle n'est pas tout le temps allumée, et quand même, enfin, dont l'objectif est d'être allumée pour qu'on voit des œuvres d'art. C'est pas paradoxal?
L'objectif, bah, c'est pas que c'est paradoxal, c'est répondre à un besoin. On avait des cas de photos numériques, on a des impressions. Si on veut avoir accès à de l'art avec une consommation d'énergie qui est quand même moindre, puisque c'est mesuré assez faiblement, on a cet écran qui nous permet ça. Mais pour ceux qui le désirent, vous pouvez bien sûr éteindre, vous n'êtes pas obligé de laisser en mode art en restant appuyé 2 secondes sur le bouton on off,
ça l'éteint
directement. Donc c'est vraiment à vous aussi de choisir. Par exemple, si vous avez des amis qui viennent dîner à la maison, dans un monde idéal, vous pouvez avoir cette ambiance avec cet affichage, et puis après, vous l'éteignez. C'est plutôt à ça qu'on pense, dans quand même une envie, un besoin d'accompagner l'aménagement de son intérieur, puisque comme on disait tout à l'heure, les écrans sont grands, ils doivent s'intégrer dans sa décoration. On dépense beaucoup d'argent dans de la peinture, dans des cadres, dans la décoration. Si au milieu de ça, on met un écran qui n'est pas très joli,
Non, mais c'est vrai. Alors, je remets pas en cause la beauté de l'écran, mais c'est vrai que j'ai un bon ami qui en a un, il m'en parle souvent. On le connaît tous. C'est Jérôme Colombin. Mais c'est vrai que on comprend bien votre message.
Ça consomme moins que ta box ADSL,
ouais.
Ta box télé qui envahit.
Tiens, puisqu'on parle de box, c'est intéressant. Justement, la box qui est à côté de la télé a tendance peut-être à disparaître avec vos initiatives, mais on peut imaginer que ça arrive effectivement chez tous les constructeurs de télé. C'est d'intégrer en fait la box dans la télé via une appli, et ça commence à arriver en France.
Et ça commence à arriver en France sur nos télés. On a été les premiers, rappelle-toi, à dématérialiser le décodeur Canal+ il y a quelques années. L'année dernière, on a été les premiers à dématérialiser la box TV de Bouygues Télécom. Et nous sommes les premiers à dématérialiser la box de Free, pardon, puisque nous l'avons annoncé il y a quelques jours.
Donc SFR, ça va pas tarder, visiblement.
SFR, bah, j'espère. En tout cas, c'est des discussions en cours.
Mais vous discutez avec tous les opérateurs, sur ce sujet-là?
Oui, parce que c'est un sujet important pour tout le monde, un sujet important dans réduire l'empreinte. On en parlait tout à l'heure, puisque c'est moins de consommation d'énergie, moins de matériaux électroniques qui sont utilisés, puisque la capacité de l'utilisateur à le faire permet d'économiser des choses dans un parc de box qui a quand même son empreinte. C'est la facilité pour le consommateur, une seule télécommande, tout intégré dans le téléviseur. Et c'est aussi la facilité dans l'usage, puisque c'est bien sûr l'écran principal, mais ça peut être aussi l'écran secondaire.
Oui, oui, c'est une appli qu'on télécharge.
C'est une appli qu'on télécharge.
Et au lieu de télécharger Netflix, on télécharge l'appli Bouygues ou Free.
C'est ça.
Et on se retrouve avec le même environnement que la box.
Le même environnement que la box.
Même qualité d'image.
Même qualité d'image sur Free. Vous avez accès à 4K UHD sur les programmes qui sont disponibles en 4K UHD. Donc vraiment le même service, mais plus facilement accessible. Et sur le second écran, dans la chambre, au lieu de se poser toujours la question de savoir si je mets une antenne extérieure, une antenne intérieure, pardon, ou comment je fais pour avoir la télé, dans ma chambre, j'aurai tout mon environnement, tous mes abonnements de ma box.
Après, j'imagine qu'il faut une bonne connexion Internet, non ? Pour que ça fonctionne bien.
Il faut une connexion, la même connexion que celle que tu as sur ta box, en fait, puisque c'est le même principe d'IPTV.
C'est assez intéressant, d'ailleurs, cette transition, parce qu'on voit que l'intérêt pour les opérateurs, c'est de ne plus dépenser des millions et des millions dans la construction, la conception de box, puisque maintenant, elle est dématérialisée. Puis de l'autre côté, c'est le fait de se dire qu'ils perdent malgré tout la main sur quelque chose d'important. C'est quand on allume une box, il y a l'image de l'opérateur qui apparaît avec son environnement, etc. C'est peut-être pas le cas là, puisque en fait, quand on allume la télé, on va avoir l'environnement Samsung et après on rentre dans l'environnement de l'opérateur, non ?
Alors, c'est justement la force de gérer son interface, son OS, qui s'appelle Tizen chez Samsung, de pouvoir travailler en partenariat avec ses opérateurs. Et de pouvoir avoir l'image, là, quand on allume son téléviseur, de rester sur la dernière application qu'on a utilisée. C'est-à-dire que si vous êtes sur l'environnement de Free, par exemple, vous éteignez votre téléviseur, vous rallumez, vous restez dans l'environnement de Free.
Donc je ne reviens pas au menu d'accueil de Samsung, par exemple.
Non, vous revenez sur votre menu principal.
J'imagine que ça a été des tractations compliquées avec les opérateurs, non ? Parce que pour eux, c'est stratégique aussi, ça.
En fait, c'est pas forcément que des tractations, c'est plutôt comment, dans la discussion, on travaille, on réfléchit à intégrer tout cet usage qui va finalement être ce qui va être le plus apprécié par le consommateur. C'est l'objectif de notre travail avec ces opérateurs.
Et donc, vous discutez avec tous les opérateurs, on peut imaginer que Orange est intéressé aussi, SFR aussi. Alors, je sais que vous avez des accords avec SFR, parce que SFR distribue vos télés dans des bundles avec des abonnements, etc. Ça pourrait arriver aussi chez Orange et SFR, ce type de box dématérialisé.
Écoutez, oui, on est en discussion avec tous les opérateurs. Il y a plus ou moins des avancées, mais pour nous, en tout cas, c'est une direction qui est à l'avantage de tout le monde. Donc, ce sont des discussions en cours. Oui.
Les technos d'image, il nous reste quelques minutes, on va y venir, et puis parler aussi de, on va dire, du top, c'est le micro LED qui commence à arriver, et alors avec des prix vraiment très très élevés, c'est sans doute la télé du futur. Aujourd'hui, il y a trois technos chez Samsung, QLED, mini LED, micro LED, c'est ça ?
En fait, il y a une techno principale qui est l'évolution du LCD avec les téléviseurs QLED. On intègre un filtre de quantum dot, qui sont des nanoparticules vraiment microscopiques qui vont vraiment travailler la lumière pour qu'elle soit la plus réaliste possible, quelle que soit l'intensité lumineuse. Et de cette gamme de téléviseurs QLED, on vient y intégrer un rétroéclairage de mini LED, les quantum mini LED, sur nos téléviseurs néo QLED. L'objectif, c'est d'avoir l'image la plus réaliste. Et une image réaliste, c'est quoi quand on regarde dehors ? C'est la luminosité et du contraste. Et en fait, on a besoin de travailler cette luminosité, qui est vraiment la clé pour le HDR, pour monter à des pics à 1500 nits, 2000 nits, voire 4000 nits.
Ça, c'est des indicateurs de luminosité.
Exactement.
En fait,
la luminosité, c'est l'intensité lumineuse que va pouvoir atteindre l'écran sur des pics. L'idée, c'est pas de tout éclairer et d'avoir...
Et de devenir aveugle.
Non, c'est juste dans le HDR, quand ça explose vraiment. Et c'est l'objectif de luminosité. Mais à l'inverse aussi, de gérer les noirs avec le contraste. Et là, on va venir travailler avec les mini-LED, les quantum mini-LED, où on passe l'année dernière sur des écrans qui avaient quelques dizaines, voire centaines de LED qui géraient le rétroéclairage, à maintenant quelques milliers, voire dizaines de milliers de mini-LED qui vont éclairer indépendamment des toutes petites zones de l'écran. Et ça nous permet d'avoir des écrans qui soient très lumineux, mais aussi très contrastés. Et ça, c'est le mini-LED. Mini-LED qui est une technologie qui est accessible, puisque ça n'a pas de surcoût par rapport aux écrans de l'année dernière, même niveau de gamme. Et la finalité, c'est d'arriver sur le micro LED, comme tu disais.
Voilà, donc le mini LED, ça y est, ça arrive.
Ça arrive, c'est disponible.
Voilà, donc ça c'est on va dire le très haut de gamme chez Samsung.
C'est notre très haut de gamme, ouais. En 4K ou en 8K, c'est nos téléviseurs qui ont la meilleure qualité d'image sur le marché.
J'ai l'impression qu'on parle un peu moins de 8K chez Samsung. que c'est plus trop le discours marketing que vous teniez il y a encore 2 ans, où on disait, bah, l'avenir de la télé, c'est la 8K, vous allez voir. Enfin, j'ai l'impression que là, vous vous recentrez plus sur les technologies d'affichage que sur la définition de l'image. Je me trompe ou pas ?
Détrompe-toi, ouais, parce que la 8K reste importante pour nous. La 8K, on a toujours autant, voire un peu plus de téléviseurs disponibles en 8K. Pour nous, c'est la montée en gamme de la 4K, la 8K, surtout sur les très grands écrans. Mm-hmm. Ce qu'on disait tout à l'heure, quand on est sur un, quand on a besoin, quand on veut l'immersion du spectacle, le grand écran nous permet de vivre ça, et de passer de la 4K 7 millions de pixels à la 8K 33 millions de pixels nous permet d'avoir cette immersion sans avoir à reculer et à prendre du recul par rapport à son écran.
Mais vous n'êtes pas un petit peu blasé de voir qu'il n'y a aucun diffuseur en 8K quasi alors que ça fait maintenant combien, 2 ans ou 3 ans que vous communiquez sur la 8K?
Ouais, mais c'est comme la 4K à l'époque, hein. La 4K c'est arrivé en 2013. Ça a commencé vraiment à apparaître 2017-2018, accessible. Là, aujourd'hui, on se rend compte que ça commence à être de plus en plus accessible. En France, on peut accéder, nous, on a travaillé avec The Explorer pour le patrimoine de l'inventaire de la Terre.
C'est très bien, c'est un peu votre vitrine. Mais
c'est un peu votre vitrine, mais ça montre que techniquement, c'est faisable.
Oui. Mais bon, Netflix s'y met pas, Amazon s'y met.
Ils y réfléchissent tous, hein. Ils regardent tous quand même la manière de faire, puisque beaucoup de caméras de captation sont aujourd'hui des caméras 8K.
Oui, mais est-ce que le problème c'est aussi la consommation électrique du cloud? Est-ce que le fait de se dire, tiens, ben voilà, pour un Netflix, de monter en diffusion en 8K, ça veut dire plus de débit, ça veut dire plus de compression, donc plus de processeurs, plus de consommation électrique, est-ce que finalement ça a du sens?
Si on arrive à optimiser, comme on le fait depuis des dizaines d'années, c'est comme si on disait, pourquoi on passe de la disquette au CD? Pourquoi on passe du CD au...
Oui.
En fait, tout aujourd'hui, dans l'évolution, permet d'accompagner ce
Pour vous, la 8K, c'est le progrès technologique dont on ne pourra pas se passer dans quelques années, c'est ça?
Pour nous, la 8K, c'est la finalité.
Sauf que ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire que jusqu'à 55 ou 65 pouces, c'est compliqué de voir la différence sur une télé 8K par rapport à une 4K. C'est intéressant sur les grands écrans.
Exactement. On commence sur 55, c'est vraiment intéressant à partir de 65, et c'est encore plus intéressant 75 et 85 pouces et plus. Mais la finalité, c'est d'avoir un écran finalement. Pourquoi est-ce que ton mur, comme tu as derrière toi,
C'est pas le mien, j'aimerais bien, mais c'est pas moi.
Chez soi, quelque chose qu'on puisse allumer de manière, par exemple, en 55 pouces pour regarder le journal, en 150 pouces pour regarder un match de foot, en 21/9 pour regarder un film. C'est ça l'objectif, hein. C'est un peu futuriste, oui, c'est un peu la science-fiction, mais...
Et ça, c'est le micro LED.
Et ça, c'est on travaille avec le micro LED, d'avoir des écrans qui soient modulaires en termes d'usage, modulaires aussi en termes de taille d'installation. On peut réfléchir à quel que soit le ratio, la définition. C'est vraiment quelque chose d'une révolution technologique pour nous.
Et alors le micro LED, justement, Alexis, expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. C'est alors il y a un concept où on achètera une télé micro LED normale, un écran, et puis après il y a ce concept d'écran, comme vous l'expliquiez, que l'on va pouvoir adapter et agrandir, c'est ça?
Le micro LED, c'est une vraie révolution, puisqu'aujourd'hui un téléviseur, c'est une dalle. Une dalle, industriellement, elle est fabriquée sur des dalles mères dans lesquelles on vient découper des tailles. Ce qui fait qu'on a des 55, 65 pouces, parfois on a passé de 65, on a trop de 55, donc il y a un peu de perte aussi dans la découpe de la dalle. Alors que le micro LED, c'est, je fabrique plein de Lego d'une seule et même taille, je les fabrique à la chaîne, et ces Lego, je viens les assembler.
Ils font combien ces Lego?
C'est des modules qui font aujourd'hui, qui font cette taille-là à peu près.
D'accord. Quoi, 20 cm sur 30,
ouais,
20
chose, ou 40, comme 40, ça, sur, 40 sur 30, quelque chose comme
ouais,
ça.
D'accord.
Et qu'on vient venir assembler pour faire l'écran qui nous correspond. Exactement. Alors dans un premier temps, comme chaque révolution industrielle, nous allons les vendre dès cette année à partir du mois d'avril de manière ce qu'on appelle enchâssée, c'est-à-dire dans un châssis de téléviseur classique avec une taille 99 et 110 pouces disponible à la vente sur le mois d'avril.
Mais ce sera ces dalles qui seront associées et déjà préassemblées, on va dire.
Préassemblées, exactement. Donc c'est un premier temps, mais pour avoir déjà la meilleure qualité d'image. Et dans un deuxième temps, ce qu'on fait déjà plutôt pour le B2B ou pour des installations très... B2B, donc le business.
Business. Alors si je suis footballeur.
Voilà, ou les installations très luxe, on peut déjà avoir cet écran modulaire, ce qu'on appelle the wall luxury.
Techniquement, ça existe,
ça marche.
Je vous commande une télé micro LED de 200 pouces.
On sait faire.
Il faut que je signe le chèque et puis c'est bon.
Mais comme toute innovation, au début c'est très cher. Et quand on dit
que c'est cher, ça coûte combien?
Alors les écrans micro LED, le 99 pouces, il va sortir à 130 000 euros, le 110 pouces à 150 000. Et quand on monte sur des walls c'est nos limites.
Bon.
Mais c'est 300, 400 000, donc c'est des choses... Voilà, c'est vraiment, comme on dit, nos limites. Mais comme tout ce qui est nos limites au début, devient au fur et à mesure des années plus accessible.
Avec une qualité d'image jamais vue,
une qualité d'image inégalée, puisque c'est deux pixels absolument auto-émissifs, avec les couleurs primaires rouge, vert, bleu, qui vont générer en 8K ou en 4K le nombre de pixels indépendamment, avec des contrastes infinis et une luminosité qui est éclatante.
Dans le calendrier Samsung, ça va se démocratiser quand cette technologie ?
À quel horizon ? Je ne suis pas forcément capable de donner une date précise, mais en tout cas c'est un vrai axe pour nous, puisqu'on a annoncé déjà 110 pouces, 99 pouces. On a annoncé aussi pour la rentrée scolaire d'avoir des tailles plus petites, plus accessibles. Mais à partir du moment où, en termes d'industrie, on met le focus dessus, qu'on travaille et qu'on fabrique ces blocs, plus on va fabriquer de blocs, moins ils vont être chers, plus ils vont être facilement accessibles.
Voilà. Vous êtes bien conscient que de toute façon, à 300 000 euros, vous n'en vendrez pas beaucoup. L'objectif, c'est que voilà, petit à petit, vous arriviez à maîtriser l'industrialisation de cette technologie.
Et si on se rappelle des écrans OLED au tout début,
ouais, ça coûtait
16 pouces, il coûtait je ne sais plus combien de dizaines de milliers d'euros.
Oui, c'est vrai. Et puis après, maintenant, voilà, ça coûte presque plus rien. Enfin, presque plus rien, il ne faut pas exagérer quand même. Merci beaucoup Alexis Rollin pour
avec
toutes
plaisir.
Ces précisions. Voilà, on a bien découvert tout l'univers de Samsung dans le monde de la télé. Ce de quoi je me mêle est terminé. Merci d'avoir été là, à la radio, à la télé sur BFM Business et puis bien sûr sur 01 TV. On sera là la semaine prochaine. D'ici là, bon week-end à vous toutes et à vous tous, confinés ou pas. Et à très bientôt.
De quoi je me mêle sur BFM Business et 01 TV.